Et aujourd'hui, nous sommes à Carpentras, dans le Vaucluse.
Aurélie Sfez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la place de la mairie de Carpentras dans le Vaucluse. Hier, vous étiez avec Antoine Lee à Roubaix et aujourd'hui, on vous retrouve sur la diagonale opposée, ici au marché provençal de Carpentras. On s'est installé sur le gros tonneau de l'étable du Comtat, un tout nouveau bar à vin, charcuterie et fromage qui vient d'ouvrir en face de la mairie. On est chez vous, David Oran, vous êtes le patron. Merci de nous recevoir.
Merci à vous de nous écouter, de nous faire parler.
Hier soir, on a visité la cave ici et le séchoir pour les fromages. C'était magnifique.
Et je me languis de montrer à monsieur le maire comme ça va être magnifique. Ça va vous plaire. Parce qu'on va avoir un séchoir à saucisson dans le plein centre-ville de Carpentras.
Pour l'apéro, vous allez nous faire goûter des spécialités.
C'est la longe dans le filet séché, qu'on peut appeler aussi le lonzo quand on est dans d'autres endroits, avec l'huile d'olive à la truffe.
C'est Carpentras qui donne le prix de la truffe.
C'est le talon.
C'est ça, démarre de là, oui. C'est ça, c'est la base.
On dit aussi de Carpentras que c'est une bulle papale du XIIe siècle. Ce comtat vénitien et cette Provence faisaient rêver le poète Pétrarque quand il grimpait le Mont Ventoux et se mettait à divaguer comme un fou. Ici, à Carpentras, on crapahute avec les papes, le pastis et les papis, les juifs de Provence et les routières de France. On est au milieu du marché et sur France Inter, ensemble jusqu'à midi, à l'étable du Comtat, dans la vieille ville où chaque pierre raconte un petit morceau d'une histoire provençale. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour Aurélie.
Votre prénom c'est Serge et votre nom c'est Andrieux.
C'est ça, effectivement.
Bonjour Sylvie Thomas.
Bonjour.
Sylvie Thomas, dites Famounette.
Et j'aime bien qu'on m'appelle Famounette, en fait. Tout le monde me connaît sous ce pseudo-là.
Famounette, ça veut dire petite femme ?
Oui, oui, c'est issu de mon QRZ.
QRZ, c'est le surnom, en fait.
C'est un surnom, oui, que chacun se met, puisqu'on ne peut pas utiliser nos prénoms. On s'identifie avec nos QRZ.
Vous l'aurez compris, Famounette est routière.
Oui, depuis 22 ans.
On se retrouve juste après un disque, parce qu'on va aller se balader dans ce magnifique marché, monsieur le maire. On va écouter en attendant Delgrès. Le morceau s'appelle Aléa, et c'est le choix de Djoubaka.
Fais-moi
Madame, est-ce que vous voulez un autre café ?
Madame, elle veut bien un autre café à David.
On est bien, on est bien, on est bien ici. Si vous pouviez enlever le café...
Vous n'êtes pas café, vous, monsieur le maire ?
J'en ai jamais bu. Jamais.
Je vous appelle Serge ou monsieur le maire ?
C'est vous qui décidez. C'est quand même votre émission. Mais sachez que je suis ouvert.
J'aime bien monsieur le maire, moi.
Allez-y pour monsieur le maire. En même temps, si je ne l'avais pas voulu, il n'aurait pas fallu que je vienne.
On va se promener ?
Volontiers. C'est parti.
Dans ce grand et magnifique marché.
Oui.
Il prend toute la ville.
Pratiquement toute la ville, oui, oui.
À tout à l'heure, Famounette.
Je ne bouge pas, je vous attends.
On se retrouve ici et je vous laisse sur le tonneau.
Oui, avec un café, je ne bouge pas.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Aurélie.
Allez, on va s'avancer, monsieur le maire, tous les deux. On va traverser ce marché.
Nous sommes dans le centre-ville de Carpentras et le marché prend que la ville ancienne. Mais c'est vrai qu'il occupe pratiquement toute la ville.
On est dans la tradition des marchés français.
C'est ça, on est vraiment dans la tradition, surtout du marché provençal.
C'est quoi l'idée de la Provence, selon vous, monsieur le maire ?
La couleur, le soleil. Si on arrive d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est la lumière. Et les photographes adorent cette lumière.
Il y a une lumière particulière à Carpentras ?
C'est particulier.
Il y a un ange doré en haut de la sculpture de la fontaine. Oui. Et cet ange doré se reflète aussi avec l'ocre de la pierre des immeubles ici. C'est très doux.
C'est ça, oui. C'est des couleurs pastel, c'est les couleurs de la Provence. C'est ça, les couleurs du miel et de l'ocre.
On a les gros melons de Cavaillon.
Oui, c'est les melons de Cavaillon.
Ici, on nous dit que c'est la fraise qui domine.
C'est la fraise de Carpentras. C'est notre reine, la fraise de Carpentras. Toutes les années, on monte à l'Élysée pour offrir au président la fraise de Carpentras.
C'est vrai ?
Oui.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Vous allez bien, monsieur le maire ?
Je vais bien. Vous aussi ?
Non, moi, je ne vais pas bien. Mais c'est parce que j'ai 20 ans plus epsilon, vous voyez ?
Ah oui.
Mais vous, ça va ?
Oui, ça va.
Et vous êtes quel journal ?
France Inter.
France Inter. C'est à gauche, France Inter.
Je sais c'est pas.
Ah si, moi je le sais. Je suis très bien renseigné là-dessus. C'est comme BFM TV, c'est un peu gaucho, ils vous racontent ce qu'ils veulent. Hein. CNews, c'est totalement différent. CNews.
Oui.
Eux, ils disent vraiment ce qui se passe. Les autres, c'est béni oui, je m'excuse. Hein, parce
que. Et France Inter, c'est béni oui.
Oui.
Oui, ah oui.
Mais ça vous raconte... L'officiel, quoi, voilà. La vérité n'est pas vraiment...
J'enregistre tout, puisque je raconte la vérité.
Vous allez vous écouter à France Inter, donc vous allez être obligé d'écouter une radio de gauche. Ça va vous faire du mal.
Ah, j'ai un petit humour. Allez, au revoir et bonne journée.
Vous allez voter, vous ?
Au présidentiel, sûrement. C'est mon devoir. Madame, alors là, je suis très sérieux. C'est mon devoir. Ne pas voter est une faute civique.
Allez. C'est vrai.
Alors, monsieur Dupont vous dit au revoir.
Mais monsieur Dupont, j'ai encore une question à vous poser. Monsieur le maire de Carpentras, il a créé un Big Bang démocratique. Vous êtes au courant ? C'est une démocratie participative.
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire tout ça. Non.
Ça veut dire qu'on donne la parole à la population. Voilà.
Il a l'air sceptique, monsieur Dupont.
Dans quelles mesures ?
Dans toutes les mesures.
Bon, bientôt, je vais prendre la parole, moi, alors. Hein.
Bah, oui. Pouvez.
Alors, malheureusement, il faudra quand même que vous vous attendiez d'être tiré au sort.
Ah, ouais.
Oui. Donc c'est pas tout le monde.
Bah, c'est le sort.
Si, c'est tout le monde, puisqu'on tire au sort toutes les années 35 personnes. Mais il est vrai que vous pouvez participer en proposant des idées que la Convention citoyenne, elle va valider.
Oui, mes idées.
Ah bah, si vous en avez
elles seront jamais. Oui.
Mais c'est quoi vos idées ? Moi, j'aimerais entendre vos idées.
Elle est sympa, petite. On voit qu'elle est journaliste. Hein. Et ta galette, on le sent. Hein.
Attendez, monsieur Dupont, donnez-moi au moins
à
une...
À la prochaine volta.
Donnez-moi au moins une ou deux idées.
Moi ?
Oui.
Vous allez me prendre pour un fou, alors.
Ah non, j'en suis pas là.
Moi, je crois à la monarchie parlementaire. Parce qu'un monarque qui représente quelque chose.
Vous êtes royaliste ?
Oui. Enfin, voilà. Je ne suis pas Reichspublik, non. La chose publique, j'y crois pas.
Le roi, ça peut être un symbole, par exemple, comme en Angleterre, voilà, ou comme en Belgique. On a un roi, mais voilà, on a aussi un premier ministre qui gouverne.
Dis, c'est ce que je vous dis, voilà. Et ça, c'est bien. Ces gens-là, ils représentent quelque chose, mais il y a un régime quand même démocratique. C'est pas un tyran.
Voilà. Et un roi, ça peut pas être un tyran ?
Actuellement, non.
Qu'est-ce que vous avez fait comme métier avant la retraite, monsieur Dupont ?
Moi, j'étais le mari de ma femme et à ses ordres.
C'est un métier, ça.
Allez, arrivederci.
Arrivederci.
Au revoir.
Qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Durand, comme métier ?
C'était un militaire. Il faut de tout, forcément, et il y a de tout.
C'est difficile pour vous, en tant que maire, de réunir tous ces citoyens si différents, qui pensent de manière si différente. Comment on fait la synthèse et l'harmonie ?
Il faut accepter la différence. Déjà, ça, c'est la base. Il suffit de ne pas trop politiser tous les actes et tous les propos.
Et vous, vous avez décidé un peu de tout bousculer ici, bien avant les Gilets jaunes.
Oui.
Vous avez fait ce Big Bang, hein, donc cette explosion démocratique, et vous avez décidé de laisser le citoyen choisir, décider, participer.
Ça faisait partie des conditions pour partir en campagne. Ils ont tous accepté. J'ai dit, alors, en ce moment-là, on y va et on va le faire.
S'ils ne l'avaient pas accepté ?
Je ne serais pas allé. Je serais resté chez moi.
Quelle étiquette ? Gauche ? Divers gauche ?
La première étiquette était PS. En 2008, on était PS et après, on est passé divers gauche. Okay. Comme tous les gens de gauche, quand le PS a pris l'eau, ils ont voulu un peu se désolidariser.
Là, le PS est sous l'eau. Hein.
Ah ben, il a pris l'eau, donc il est noyé. Le LR est en train de se noyer aussi. Hein.
Ici, vous êtes cerné. Enfin, tout le monde le sait, dans la région PACA, vous êtes cerné par le Front National, le Rassemblement National, la droite dure, quoi.
Oui, c'est l'extrême droite. Il y en a beaucoup. C'est lié surtout au fait qu'à Carpentras, il y a beaucoup d'agriculture. Les agriculteurs embauchent de la main-d'œuvre étrangère. Donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent du Maghreb et beaucoup d'Espagne. Ce qui fait que la population qui ne comprend pas tout considère que ces gens-là viennent manger leur pain. Donc la haine de l'autre, c'est la base, c'est le terroir de l'extrême droite. Parce que l'autre est responsable de leur malheur. Et ça, c'est difficile à faire comprendre. Parce que cette population qui résonne comme ça, c'est souvent la population du bar de la place. Et je ne vais pas au bar. Donc j'espère que grâce au Conseil citoyen, j'espère que ces gens-là vont comprendre comment ça marche.
Par quels moyens vous allez essayer de faire de la pédagogie ?
Déjà par le tirage au sort. Je reste convaincu que les 35 personnes qui vont passer 12 mois dans la gestion de la collectivité vont pouvoir expliquer à leurs collègues et à leurs familles ce qu'est une mairie et comment ça fonctionne. On va leur apprendre la politique.
Vous êtes un ovni ici dans la région.
Pour l'instant, nous sommes les seuls.
En France ?
En France, oui, oui. Le référendum, c'est l'État. C'est à que lui qui peut le faire.
Et vous avez réussi à imposer un référendum ?
Oui. L'intitulé du référendum, c'est donner le pouvoir à la population de s'opposer à un projet, quoi. Okay. Et de dire à monsieur le maire, vous vous trompez, on ne veut pas.
Mais vous croyez en l'intelligence collective, monsieur le maire de Carpentras ?
Je l'espère, voilà, je l'espère.
Est-ce que vous pensez, monsieur le maire de Carpentras, que ce que vous appliquez ici, à petite échelle, dans votre ville, ça peut être reproductible sur la France, à grande échelle, au plus haut sommet de l'État ?
Alors ça existe, parce que le référendum existe. Sauf que les possibilités de l'utiliser sont quasiment impossibles. Vous l'avez bien vu quand ils ont fait pour la vente de l'aéroport de Paris. C'est inaccessible. On laisse croire à la population qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, mais en réalité, ils ne peuvent pas.
La parole à la population, des fois, le peuple se trompe.
Nous sommes les garde-fous de la population, puisqu'on leur explique comment ça fonctionne. Il y a un droit d'amendement sur une délibération. D'accord. On peut s'opposer à une délibération pour une raison ou pour une autre. Il faut recueillir 2% de la population inscrite. Ils nomment un porte-parole qui est dans la convention citoyenne, et qui vient expliquer au conseil municipal la raison. Et nous, élus, on a la possibilité et le pouvoir de lui expliquer la nôtre de raison. Et après, à la fin, c'est quand même le conseil municipal qui est souverain.
De quoi ils ont envie, les Carpentraciens, ici ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
C'est de redonner vie au centre ancien, garder nos commerces, éviter d'avoir des zones commerciales qui vident notre centre-ville et ramener de la population qui a un pouvoir d'achat pour pouvoir dynamiser nos commerces du centre. Et si le centre vit, la ville va vivre. Si le centre meurt, la ville, elle meurt.
Pour les jeunes ici ?
Pour les jeunes, nous payons les permis de conduire.
Vous payez les permis de conduire ?
Oui. En contrepartie, les jeunes nous doivent 15 jours de travail.
Des travaux municipaux ?
Oui.
Pour ceux qui n'ont pas d'argent ?
On a beaucoup de logements sociaux.
Ouais.
Là-dessus, on n'est pas carencé. Et qu'est-ce qu'on fait pour les gens ? Alors, je vais vous donner un exemple, ce qu'on a fait pendant le confinement. On a ouvert un gymnase et on a nourri et laver tous les sans-abri de la ville.
Et...
Non, c'est pas la télévision, c'est la radio.
Non, mais non, moi, je veux passer à la télé, moi.
Ah bon, la radio, ça vous intéresse pas?
Non, ça m'intéresse pas.
Parce que vous voulez qu'on vous voit?
Ouais, c'est ça.
Dis ton nom, on va t'entendre.
Je m'appelle Maël. Et là, je vais aller où, là, du coup?
Ben là, vous allez sur France Inter.
C'est la télé?
Non, c'est la radio.
C'est la radio.
Quelqu'un dans sa voiture, il est en train de nous écouter.
Ouais.
Je m'appelle Malek Lombard, si quelqu'un me connaît.
Vous avez quel âge, tous les deux?
Moi, j'ai 18 ans.
J'ai 18 ans, et on vient de Carpentras, ici.
Qu'est-ce que tu fais à Carpentras?
Je suis charpentier.
Moi, je suis dans les intérims.
Ouvrier charpentier?
Ouais, je prends du 3000 euros par mois.
C'est vrai?
Oui.
Ça gagne bien?
Ouais, ça gagne bien.
T'as arrêté les études?
Ouais, toutes les études. Parce que l'école, c'est pas fait pour moi. Même mon collègue, il aime pas l'école.
Moi, c'est l'inverse.
C'est l'école qui ne m'aime pas. C'est différent.
C'est pas pareil.
C'est ça.
Je vous présente Monsieur Andrieux, le maire de Carpentras.
Enchanté.
Eh bien, moi aussi.
Qu'est-ce que vous voulez lui dire à Monsieur le maire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous?
Des trucs de jeux vidéo, des machines de jeux vidéo, comme ils ont à Paris, des ordinateurs.
Voilà.
Vous rêvez de quoi? En quelques mots, si vous aviez une baguette magique, vous rêviez... Quoi?
D'être riche.
D'être riche?
D'être riche.
Tu crois que l'argent va résoudre tous tes problèmes?
Oui. Pas tous les problèmes, mais certains, oui.
Sur 95%. Sur 100, 95%.
Toi, tu viens d'où?
Carpentras.
Et tes parents?
Carpentras.
Carpentracien de chez Carpentracien?
Ouais. Moi, je suis pas un Carpentracien, moi, de base. Moi, je suis un Alessois.
Alès.
Je viens d'Alès, c'est dédicace à Alès.
Vous allez rester ici ou vous allez partir d'ici?
Non, on reste ici. Carpentras, c'est bien. On est un bon maire.
Est-ce que les jeunes peuvent participer à la démocratie?
Bien entendu. Le plus jeune a 18 ans et le plus ancien en a 92. Donc, ils peuvent.
On vous attend à la mairie?
Ouais, c'est bon, pas de souci.
On retourne aux tables du comptoir?
Allez, on y retourne, volontiers.
On va s'asseoir sur notre tonneau?
Allez, on va s'installer sur notre tonneau.
Et on va retrouver Famounette. C'est Sylvie, dite Famounette.
Rebonjour Aurélie.
Famounette, ça fait 22 ans que vous êtes routière. Il n'y a pas beaucoup de femmes routières en France, 5 à 10%.
Ouais. Oui, on est vraiment très peu nombreuses. Et je pense qu'il y a un a priori sur le gabarit du véhicule qui fait peur.
C'est vrai?
Oui.
Vous, ça vous a pas fait peur?
Non, j'avais 16 ans quand j'ai dit à mes parents pour la première fois que je voulais prendre un camion. Ça a été la panique. C'est ma maman en premier. Et où elle m'a dit non, faire un métier de fille, c'est mieux.
C'est pas un métier de fille routière?
Dans la mentalité des gens, non, c'est pas un métier de fille. Il reste l'a priori d'un besoin de force musculaire et d'itinérance.
C'est quel monde, le monde de la route au volant d'un camion?
En fait, nous, les stations, ce sont nos escales et ce sont nos lieux d'hygiène.
C'est payant pour prendre une douche? C'est payant pour aller aux toilettes?
Pour aller aux toilettes, non. Pour l'accès aux douches, il y a un arrêté qui date de 2016 et que les sociétés d'autoroute ont mis très longtemps à appliquer. C'est censé être gratuit et surtout c'est censé être propre. Quand on leur dit « la douche est gratuite », ça a été des insultes, ça a été « mais vous voulez pas non plus qu'on vous frotte le dos ?» Moi, je me suis battue pour que la gratuité, elle soit appliquée.
Vous avez même écrit au ministère des Transports?
J'ai écrit au ministère des Transports, j'ai écrit aux sociétés d'autoroutes pour obtenir ce changement et cette intégration de la gratuité. On paye pour tout. Faites-nous au moins ça gratuit.
Famounette, vous avez travaillé à la chaîne, à l'usine. Vous m'avez dit que vous mettiez des fromages dans des boîtes. Vous avez bossé sur les marchés. Mais depuis toute petite, vous rêvez de conduire un gros camion?
Oui, oui, et ça a été dans un coin de ma tête toute ma vie, jusqu'à ce que je prenne le taureau par les cornes et que je demande rien à personne et que je dise, ouais, je vais passer mes permis.
Est-ce que c'est un espace de liberté?
J'en sais même rien. Je ne sais pas ce qui fait qu'on aime la route. Juste, je me sens à ma place. Je suis un maillot. Je me sens pas ni héroïque, ni ce qu'on a voulu faire croire aux gens que nous étions les héros d'une pandémie. Non, on faisait notre métier parce qu'à ce moment-là, on a toujours eu besoin de nous.
Vous êtes la reine à bord du camion?
Oui, oui. Maîtriser 44 tonnes, c'est agréable. Ah ouais. C'est un apprentissage compliqué. Faire une marche arrière avec une semi et vous dire inverse les gestes,
est-ce que vous avez eu à faire face à la misogynie, peut-être de vos confrères, ou à la misogynie des gens qui ne sont pas du milieu des routiers?
Au départ, un petit peu. Et ça s'est vite estompé. Parce que, en fait, nos collègues, ils sont contents d'avoir des femmes dans le métier. Les plus gros misogynes sont dans le monde extérieur. Tous ceux qui ne connaissent pas le métier se demandent ce qu'on fait au volant d'un camion. Et pourquoi on veut se faire remarquer ? Moi, j'ai jamais eu la sensation de me faire remarquer. J'ai juste la sensation de faire le métier pour lequel je suis faite. Mais ce côté, une femme au volant, oui, je l'ai eu.
On se fait des copains sur la route ?
On se fait énormément d'amis. Et en fait, on est tous dans le même état d'esprit. Il ne faut pas rater la rencontre quand elle a lieu. Parce que peut-être qu'on ne se reverra pas avant, voire jamais. Mais que la rencontre, il faut la faire tout de suite. C'est en ça que peut-être le monde de la route, il est différent, c'est qu'on est facile de contact et facile d'abord. Et on adore quand les gens viennent vers nous. Et ils ne nous voient pas pourtant.
Ils n'osent pas peut-être.
Peut-être.
Ils ont peur de vous déranger, c'est impressionnant le camion aussi.
Oui. Mais pour nous, il est protecteur.
Ouais. Il a un nom votre camion ?
Moi, c'est Pépère. Et Pépère, il m'emmène partout.
Qu'est-ce que vous écoutez comme musique quand vous êtes dans Pépère ?
Alors, je suis très éclectique. C'est de la variété française, c'est de la variété étrangère. Mais alors, si c'est de la variété française, je suis capable de chanter à tue-tête au volant. Et après, l'incontournable radio, je suis désolé pour vous, hein, du routier, c'est RTL à cause de Max.
Et c'est quoi l'émission de Max ?
Les routiers sont sympas.
Les routiers sont sympas, évidemment.
Et les routiers sont toujours sympas, particulièrement les routières.
Il faudrait qu'on fasse une émission sur les routières sur France Inter.
Je pense que vous pourriez avoir une émission en or.
Bon, on a déjà une émission en or avec vous.
Ah, merci.
Famounette, on est ici, à l'étable du Cantat, place de la mairie, à Carpentras. Il y a David qui nous amène à manger une magnifique planche de charcuterie.
C'est la charcuterie de la ferme et les fromages de notre fromagerie qu'on a aussi à Carpentras.
David Oran, vous connaissez la bibliothèque de Carpentras ?
Non, mais je vais y aller.
Eh bien nous, on y est allé hier. On a tout de suite voulu la voir, cette bibliothèque de Carpentras. Elle s'appelle Lingambertine. Et c'est un endroit merveilleux, un cabinet de curiosités littéraires. Et là-bas, on a fait connaissance avec Jean-Yves Baudouy, le maître des clés.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Bonjour Jean-Yves Baudouy.
Bonjour Aurélie.
Vous avez une clé énorme entre les mains.
Oui, c'est la clé historique de Lingambertine qui a ouvert la porte de la bibliothèque du XVIIIe siècle.
Vous avez dit Lingambertine.
Oui, c'est le nom en fait de cette institution, de cette vieille bibliothèque qui a été fondée au XVIIIe siècle, au cœur du siècle des Lumières, par D'Engimbert, qui était évêque de Carpentras.
Lingambertine.
Joli nom, non ?
Et là, on rentre dans le Saint des Saints.
Voilà, dans la bibliothèque. Voilà, donc je vous laisse. Attention, on marche. On est au milieu de livres, de tableaux, de girafes anciennes. Voilà, une girafe, vous avez vu, c'est pas un animal, hein, c'est un meuble.
C'est un magnifique escabeau, on va dire, voilà, qui permet d'attraper les livres.
En hauteur, voilà.
On a l'impression d'être dans la bibliothèque de Giles dans Buffy contre les vampires.
Du nom de la rose, de
Harry Potter,
et d'autres, voilà, c'est cet univers de livres, souvent anciens, et on soupçonne beaucoup de mystères, en fait, et de trésors. Alors attention. Voilà, donc là c'est, je sais pas, voilà, un autre univers. Là on est dans la salle de musique, du fond musical.
Tout ce qu'il y a autour de nous là, ce sont des partitions et des livres sur la musique et des traités de composition.
Tout à fait, ce sont vraiment des partitions. On va ouvrir au hasard, hein, très beau.
Schubert,
voilà, un très beau livre avec de belles reliures en tout cas. Et là c'est un imprimé, vous voyez, donc avec des annotations. Et vous voyez ce très beau papier, très épais. La patine hein, aussi du temps.
L'odeur aussi.
Alors il y a l'odeur du papier, il y a l'odeur du cuir aussi. Vous avez senti, je ne sais pas, quand vous êtes entré.
Oui. Voilà. Il y a une odeur particulière.
Tout à fait.
Ça sent quoi les livres ?
Quelque chose.
C'est boisé.
Voilà, bravo.
Mais parlons de choses sérieuses, Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des fantômes dans cette bibliothèque ?
On entend des bruits parfois, c'est vrai que, voilà. Moi qui suis rationnel, je vous dirais que non. En tout cas, il y a un esprit, à défaut de fantômes.
Des esprits ou un esprit ?
Oh, je pense qu'il peut y en avoir plusieurs d'esprits.
Bonne nuit, la Bibli.
את כל האהבות הראשונות. האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 ומצפצפים על מבטי העוברים בדרך. האוהבים המתנשקים על הספסל, הספסל,
c'était Yaël Naïm, Asaf Sal à Tiburi. Vous écoutez France Inter, rendez-vous place du marché ici à Carpentras, au pied du Ventoux. Je me dirige vers la synagogue, c'est la plus ancienne encore en activité en France. Elle est juste là-bas, place de la Juiverie, en plein milieu du marché.
Et approchez aujourd'hui à Carpentras les deux barquettes de fraises, 5 euros!
Et sur la façade, il y a une plaque sur laquelle on peut lire « Cette maison de prière édifiée en 1367 a été reconstruite de 1741 à 1743 et remise en état en 1929 ». Et je vous retrouve ici, au pied de l'escalier, Katia Freund, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Gilberte Lévy.
Bonjour.
Gilberte, vous êtes qui Gilberte ?
Alors je suis dans la communauté juive de Carpentras actuelle, je suis la seule descendante des juifs du pape. Donc nous étions déjà dans un quartier fermé, on n'avait pas le droit d'habiter ailleurs. Donc cette synagogue, ce n'était pas seulement un lieu de culte, c'est aussi un lieu de vie. Nous avons ici deux boulangeries, un abattoir, il y a une piscine rituelle également. Ici, c'est la salle de Jérusalem qui était autrefois la salle de prière des femmes, puisqu'il y a une séparation plus ou moins importante entre les hommes et les femmes pendant la prière. Au Moyen-Âge, les femmes étaient donc ici. Elles ne pouvaient entendre que grâce à un soupirail qui débouchait dans la salle de prière des hommes, le déroulé de l'office.
Il était où ce soupirail ?
Alors, il était par là. Ben, c'était une petite trappe, hein, une trappe,
un trou tout simplement.
Donc elles étaient ici, au sous-sol.
Oui.
C'est quand même un peu du rail pour les femmes.
Ben, elles acceptaient à l'époque.
Vous accepteriez, vous, aujourd'hui ?
Personnellement, non.
Et vous, Gilbert ?
Moi non plus, moi non plus, non, non, moi non plus. Non. Alors, dans cette synagogue, qui est toujours très particulière, les hommes et les femmes sont au même niveau. Les hommes se mettent à droite et les femmes à gauche. La synagogue n'était pas en état, à l'époque, de mettre les femmes à l'étage, comme ça se fait beaucoup dans d'autres synagogues.
À cause des travaux, en fait.
Oui,
ces travaux ont permis de rassembler les hommes et les femmes.
Exactement.
Gilberte, vous m'avez dit tout à l'heure, je suis la dernière descendante des Juifs du Pape.
La dernière descendante des Juifs du Pape, qui fait partie actuellement de la communauté de Carpentras.
Essayez de me remonter la chaîne un peu de vos ancêtres.
Donc ma famille est implantée ici depuis, je ne sais pas, la nuit des temps, je n'ai pas de date, mais... Donc les premiers juifs dans la région, c'est dans l'Antiquité. On a des traces archéologiques de notre présence. Il y a donc 2000 ans que les juifs du pape sont installés ici. Pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, nous sommes restés dans un quartier fermé.
Un ghetto ?
On appelait ça la carrière.
La carrière.
Donc cette carrière était donc fermée. Nos allées et venues étaient limitées, on avait des... obligation d'avoir un signe distinctif, c'est-à-dire un chapeau jaune pour les hommes et un fichu jaune pour les femmes, qu'on appelait le pétassou.
Le jaune était déjà un signe distinctif pour la communauté juive. On pense
oui,
à l'étoile jaune,
oui,
forcément.
Hitler n'a rien inventé. Depuis l'Antiquité, c'est comme ça. On devait avoir un signe distinctif pour ne pas se mélanger aux autres, puisque depuis la nuit des temps, on nous accuse d'empoisonner les puits, de donner la peste. Et encore aujourd'hui, lors de l'épidémie de Covid, il y en a qui ont dit que tel labo avait... inoculer la maladie et que, justement, le patron du labo était juif. Voilà, donc il n'y a pas, rien de changé. Et voilà, il y a un gros travail à faire sur la question. Comme je dis, on a l'habitude, ça fait 5000 ans qu'on est les boucs émissaires de l'humanité. Donc, je le prends avec philosophie, mais enfin, il y a des conséquences telles que bon, c'est compliqué. Hein.
On continue cette petite visite. Ici à droite, c'est le bain.
Le mikvé, c'est un bain de purification que les femmes doivent utiliser la veille de leur mariage, chaque mois après leur cycle et après chaque naissance avant de se rapprocher de leur mari. Ça peut être ou un puits ou une source, mais là c'est un puits.
Le mikvé doit comporter un certain pourcentage d'eau chaude par rapport à l'eau froide. Ne nous demandez pas combien, c'est toujours en discussion.
À la fin, c'est tiède ?
C'est pas chaud, c'est tiède.
Tiède plutôt vers le froid ?
Je crois que oui. Ouais.
Vous le preniez, vous, le mikvé, Katia ?
Quand j'étais en Afrique du Nord, oui, mais actuellement, il me faut faire 100 km. J'avoue que non.
Et vous, Gilberte,
moi,
vous l'avez pratiqué ?
Je l'ai levé une seule fois, la veille de mon mariage. C'était très froid, je n'y suis pas retournée.
Et c'est tous les mois, mais quand
oui,
les femmes ont leurs règles.
Oui, voilà, c'est ça, tous les mois, oui.
Ce qui lui permet, une fois que la femme ait fait sa purification, de pouvoir avoir à nouveau des rapports avec son époux. Vous voulez aller où, là, maintenant ?
Je ne sais pas, moi.
Mais on peut passer par là ?
Oui.
Ça a été rénové ?
Tombé sur
ouais.
Tout dans
oui.
Le...
Là, vous allez voir le mikvé d'origine.
On descend de manière très profonde, là.
Oui. En fait, il y a 7 paliers, puisque là, nous sommes sur la nappe phréatique. C'est un puits, en fait. Hein. On doit s'immerger totalement par 3 fois. Donc, il faut qu'il y ait au moins 1,50 m d'eau à l'endroit où on plonge.
Donc, on voit les escaliers en transparence sous l'eau. C'est complètement dingue. Hein. C'est très profond. Hein. Ça doit être assez impressionnant de descendre quand même, d'aller se baigner dedans. Vous l'avez fait dans celui-ci ?
Malheureusement, pas celui-ci, parce qu'il n'est pas en état pour être utilisé. Moi, c'est à Marseille que je suis allée, mais c'était un mikvé de ce genre-là, un puits creusé dans la roche et auquel on accédait par quelques marches.
Et on y descend en chemise de nuit ou on y descend toute nue ?
On mettait une espèce de drap sur soi et on se baignait totalement nu.
Et on se baigne seul ou il y a des gens qui vous regardent ?
Alors, normalement, la veille du mariage, moi j'ai dû négocier. Il y avait ma grand-mère, ma belle-mère et la personne qui officiait, donc qui disait les bénédictions. Mais la famille de mon mari étant d'Afrique du Nord, ils voulaient qu'il y ait tous les amis et que les femmes fassent des you-you. Alors, moi, c'était pas du tout mon truc.
Mais vous n'étiez pas super intimidée, Gilberte ?
Ah, ben si, oui, c'était très dur pour moi. Pour moi, c'était difficile. Foutre à poil devant les autres, c'est pas possible. La communauté actuelle, ce sont des Juifs d'Afrique du Nord. Et j'ai souvent des différends avec des personnes de cette communauté. On n'a pas du tout la même approche.
Donc, quand on est juif contadin, juif du pape, oui. On est juif provençal, du coup, ou pas ?
Oui, c'est ça, oui. Vous connaissez sans doute Darius Milhaud et Armand Lunel. Hein.
Un compositeur.
Voilà, un compositeur. Et Armand Lunel, c'est un écrivain. Il disait, je suis un Français de province, de religion. Il disait israélite à l'époque, parce que, voilà, c'était l'époque où on pensait que juif, c'était un gros mot. Moi, je dirais, je suis une Française de province, de religion juive.
On remonte, Gilberte. Où est-ce qu'on est là ? Où est-ce qu'on va ?
Alors attention, il y a une petite rigole. Ne tombez pas. Donc ça, c'est le four. Là-bas, c'était le four de la boulangerie pour le pain de tous les jours. Ici, c'est le four des coudoles.
Le pain azim, le pain sans levain.
Le pain azim, le pain sans levain que l'on mange pour la fête de Pessah.
La fête de Pâques.
Voilà, la fête de la Pâques.
Je traduis. Hein.
Oui.
J'ai vu un article dans le New York Times. Gilberte, vous êtes dans le New York Times. Et on parle de vous comme une super cuisinière.
Merci. Mais bon, au New York Times, je leur avais donné la recette de ce que ma grand-mère a appelé le prin. C'est une poitrine de veau farcie avec des blettes ou des épinards. Et c'est un plat que l'on faisait pour la fête de Pessah. La cuisine juive, c'est le reflet de la cuisine du pays alentour, adaptée aux règles de la cacheroute. Et donc, en province, bon, il y a ce prin. Et puis il y a des tiens de légumes, des voilà.
Oui, donc c'est une cuisine méditerranéenne,
c'est une
provençale.
Cuisine provençale méditerranéenne, adaptée à la cacheroute, c'est-à-dire par exemple si on fait un plat de viande, on mettra pas de beurre, on mettra de l'huile. Voilà, c'est.
Est-ce que vous faites des boulettes, Gilberte ?
Oui, on appelle ça des pommeaux. Alors ce sont des boulettes de viande mélangées. C'est-à-dire il y a moitié bœuf, un quart d'agneau, un quart de veau haché. Maman, elle met simplement du sel, de l'ail, du persil. Elle façonne des petites boulettes. On les fait cuire dans une cocotte. On rajoute des olives, des carottes. Et on fait mijoter. Donc, ça s'appelle les pommeaux.
Vous avez bien observé votre maman les faire.
J'ai bien observé ma maman, oui.
On monte ?
On va monter le grand escalier de la synagogue.
On arrive ici, dans cette salle de prière, qui a des couleurs étonnantes. Ces couleurs, c'est quand même fantastique, ce vert. C'est l'Adon ?
Oui, il me semble qu'Amande, c'est un peu plus clair.
Avec ces colonnes de marbre.
Non, c'est du bois. Ah, c'est vraiment du trompe-l'œil.
C'est toc.
Oui.
Elle est adorable, cette synagogue. C'est un petit bijou. Il y a des petits vitraux en haut. Bon, on sent que ça a été refait d'époque en époque, quand même, de style rococo.
Oui. Donc le soupirail dont je vous parlais tout à l'heure, il débouchait par ici. Donc nous pouvions entendre, mais pas être vus. Parce qu'en fait, le gros problème dans toutes les religions de séparation des hommes et des femmes, c'est parce que ces messieurs sont perturbés à la vue des dames. Donc il faut que nous soyons cachés.
Dans une autre vie, Gilberte Lévy, vous auriez été rabbin, peut-être.
Ah, j'aurais bien aimé, oui. Je suis une grande admiratrice de Delphine Horviller. Et oui, j'aurais bien aimé être Delphine Horviller, ça c'est sûr. Oui, elle est géniale, franchement.
J'ajouterais, c'est une femme. Elle ne peut être que géniale.
ici dans cette synagogue se fait la prière de la République.
Oui, dans cette synagogue, nous avons une prière qui doit se faire normalement tous les samedis lors du Shabbat pour la République. Vous avez...
Elle est où cette prière de la République ?
Sur la théba, là, vous avez une prière qui est écrite aussi bien en hébreu qu'en français.
Pourquoi vous tenez absolument à la faire ?
On est citoyen d'abord d'un pays, et ensuite la religion, c'est quelque chose vraiment de privé.
Ça s'appelle la laïcité.
Voilà. Bénis et protège la République française et le peuple français.
Amen.
Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu, en tout temps, le droit de la liberté. C'est vraiment un éloge à la France.
Absolument.
Carpentras a pas mal de casseroles. C'est la spoliation du cimetière juif. La ville souffre d'une image assez négative dont on n'arrive pas à se défaire.
Alors, moi, il est bien clair que lorsque nous faisons visiter cette synagogue et qu'on aborde ce genre de problème, je l'élimine complètement. La synagogue est ouverte aux gens. Les gens qui ne sont pas de confession juive peuvent venir assister à un office. Le mot synagogue veut dire assemblée. On se rassemble dans cette synagogue. On chante dans cette synagogue. On danse dans cette synagogue. Et j'invite les gens à venir nous voir, à venir discuter avec nous.
Il y a des bonnes vibrations. Je sais pas comment dire. Voilà. Il y a des bonnes vibrations.
Voilà, c'est le mot.
Good vibration. Merci beaucoup, Katia Freund.
Merci beaucoup, Aurélie, d'être venue et d'avoir tenu compte de tout ce que nous avons raconté.
À bientôt, Gilberte Lévy.
À bientôt. Merci pour être venue nous rencontrer.
Eh bien, nous, on écoute Curtis Harding. Le morceau s'appelle Hopeful. Et on se retrouve juste après pour l'apéro.
I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue that's been corrupting, no substance to be hidden from. Now we see roughly, rough forth from a dream, a stream underwater without a option to sing. Not the pacifier, but homie, the truly change when you stare at the heavens and see the stars rearrange. So be evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gathered thicker than sofas lathered. Don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the dollars will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, things that cause casualty to your soul, let it go. Most of all, be hopeful. 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 Hopeful.
Let's just be
hopeful
when you can't see.
Hopeful.
Just remain
hopeful.
Yeah.
Place du Marché. Aurélie Spez sur France Inter.
Et nous sommes de retour ici sur la place du marché de Carpentras et sur France Inter. On est revenu sur notre tonneau préféré à l'étable du Cantat où David Oran et Fred Potier nous reçoivent. David Oran, c'est le producteur de viande de porc et de charcuterie qui nous a amené trois plateaux fantastiques et du vin de la cave ici. On est encore avec vous, monsieur le maire.
Oui, je suis toujours là. Je reste avec vous jusqu'au bout.
On va prendre l'apéro tous ensemble. Patrick Chêne, bonjour. Tout le monde vous connaît parce que vous étiez le journaliste de Stade 2.
Entre autres, oui, c'est vrai que quand les gens m'interpellent, c'est plus pour Stade 2 et le Tour de France que pour mes émissions politiques, c'est comme ça. C'est joli ce qu'elle a dit, Famounette, hein, sur le fait qu'elle soit à sa place. C'est peut-être ce que je ressens ici depuis que je suis dans le Vaucluse. Moi, je suis à ma place. Vous avez découvert ce coin, c'est assez magique quand même ce qui se passe ici.
Vous, on peut parler de reconversion totale. De journaliste, vous êtes devenu viticulteur.
Vigneron. Le viticulteur, c'est celui qui s'occupe de la terre. Le vigneron, il fait tous les métiers. C'est ce qui est un peu fatigant, ce qui explique mes yeux cernés. C'est qu'il y a 4 ou 5 métiers dans le même. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de la terre, évidemment, s'occuper de la vinification, s'occuper de la commercialisation, s'occuper du marketing. C'est une entreprise globale d'être vigneron, etc., etc.
Vous êtes venu en voisin, vous arrivez d'où ? C'est où maintenant, votre maison ?
Alors, ma maison, c'est à Caron. C'est à 7 km d'ici. Je suis entre le Mont Ventoux et Carpentras. Et ce qui change la vie ici, hormis la qualité globale et la gentillesse des gens, c'est d'avoir ce Mont Ventoux qui nous interpelle un peu tous les jours. Il n'est jamais de la même couleur. Moi, chaque fois que je rentre chez moi, j'ai le Ventoux en face de moi. Je sais pas, c'est assez magique, assez presque mystique d'être auprès du Ventoux, parce qu'il se passe toujours quelque chose.
Vous qui avez présenté le Tour de France, je suis toujours sidérée de voir des cyclistes chevronnés grimper le Mont Ventoux. Je me dis, mais il faut être fou pour faire ça.
Alors, il ne faut pas être fou, il faut être très entraîné. C'est l'ascension la plus difficile. On parle de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, il y a des relances sans arrêt, il y a des virages. Le Mont Ventoux, il y a des grands bouts droits, comme on dit, avec le vent de face. C'est une montagne très difficile.
Pétrarque a fait l'ascension du Ventoux. Il a écrit une lettre magnifique. Le Ventoux, c'est aussi un territoire de réflexion.
Alors vous avez de bonnes références, parce que c'est vrai que Pétrarque a écrit des choses sublimes sur le Ventoux, qui est quand même là, on se demande bien pourquoi, hein. C'est un accident géologique incroyable. On est à 150 mètres d'altitude ici, et d'un seul coup, pouf, vous avez un truc à 1960 mètres. Et ça explique peut-être cette attraction qu'il a sur nous.
Votre vie, elle a changé. De Paris, vous êtes venu ici, dans ce Vaucluse. On ne vous a pas accueilli un peu comme le journaliste parisien qui débarque ?
Alors, pas du tout. Et puis, je fais du vin. Et ça, je crois que je participe à la réputation de ce vignoble magnifique.
Faire du vin, c'est une manière de s'intégrer.
Évidemment. C'est une manière d'abord de respecter la terre. Vous savez, quand je suis arrivé en 2014, il y avait encore des vignes à l'abandon. Ça voulait presque dire que ce n'était pas des vignes de qualité. Et aujourd'hui, je vois un changement radical. Toutes les vignes sont belles, tout le monde a replanté, tout le monde a arraché ce qui n'était pas beau. Vous savez, tous les copains de Châteauneuf-du-Pape, de Rasto et d'ailleurs, ou de Gigondas, quand ils viennent ici, ils sont un peu étonnés par nos terroirs. Et tous ceux qui peuvent venir en province, qui n'ont pas un boulot qui les oblige à vivre à Paris, il faut venir ici. Qu'est-ce qui s'emmerde à rester là-bas ?
C'est terre d'accueil ici, monsieur le maire ? Est-ce qu'on doit faire ses preuves ou est-ce que c'est ouvert ?
Non, c'est très ouvert et Patrick en est le témoin.
Moi, je suis venu simplement...
Avec votre casquette ?
J'ai ma casquette, voilà. puis j'ai... Non, je veux dire...
Avec vos bottes ?
Mais oui, mais moi, je sais pas, à Paris, on disait que j'étais un journaliste rock'n'roll et voilà, bah... Je suis un peu rock'n'roll ici aussi, c'est-à-dire que j'avais une chemise blanche et une veste foncée, c'est vrai, parce que les gens y préfèrent. Mais voilà, ça c'est de la poudre aux yeux. Donc je dis, il n'y a qu'un secret pour s'adapter dans le Vaucluse, il faut aimer les gens.
On va goûter votre vin, Patrick Chêne. C'est quoi ce vin ?
Il s'appelle l'échappée de Patrick Chêne. J'ai osé mettre mon nom, en gros, sur la bouteille, et j'assume. Pourquoi ? Parce qu'on est près du Ventoux, parce que le Tour de France donc, est passé au mois de juillet ici. J'ai voulu faire ce clin d'œil avec ce vin de joie de vivre, de gourmandise, d'élégance, de fraîcheur, de fruits.
Vous l'avez goûté, David Oran, le boss, voilà. Le patron de l'étable du Comtat.
Oui, c'est très bon, merci beaucoup. Mais c'est vraiment des métiers passion, viticulture
et charcuterie.
Et charcuterie, élevage à la base, c'est le métier de la terre, c'est ce qui compte. Et on a un bon terroir.
Donc, et vous avez 200, 300 cochons, je crois.
300 cochons à 2 km d'ici. Et là-bas, en face de Monsieur Andrieux, c'est de la longe dans le filet avec mon voisin qui est à côté de chez moi à la ferme, c'est la famille Jomard.
C'est un délice, hein, ça. Hein.
Jomard, c'est une institution ici.
C'est mon voisin. Après, aussi, on a des petits fromages de chèvre entre Sarian et Beaumont du Ventoux, qui sont pas mal aussi, celui-ci. Et on travaille avec des éleveurs, un maximum d'éleveurs.
C'est délicieux.
Ça, c'est un joli bruit.
Alors derrière nous s'est installé le trio Joulik avec Mélissa, Robin et Claire. Ils ont fait le voyage à pied avec leurs instruments, comme les baladins.
Mais non, ils ont pris le train.
Ils sont arrivés avec leurs instruments, un violoncelle, une guitare, un mandole. Bonjour, le trio Joulik.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous arrivez d'où ?
On vient du Mont Ventoux.
Et voilà, on est descendu pour partager ce petit moment avec vous.
On est très content d'être là. Ça nous fait plaisir.
Et bien, nous aussi.
Qu'est-ce que ça veut dire, Joulik ?
Joulik, ça veut dire chenapan, voyou, va-nu-pied, le petit voleur de chevaux. C'est un mot russe, tzigane russe. Ouais.
Les petits chenapans, voilà, on va à la collecte de la culture du monde, on s'inspire de toutes les musiques, voilà, en s'affranchissant des frontières tant géographiques que temporelles, puisqu'on va, on va jouer de manière peut-être plus moderne les choses que l'on entend dans le monde.
Mélissa à la mandole, Robin à la guitare, Claire au violoncelle, c'est le trio Joulik sur France Inter, sur la place de la mairie, le marché Ramballe à Carpentras, et nous on part avec vous dans la cordillère des Andes. Mais en Provence.
Quelle plata quisiera plumita d'oro tuviera para escribir una carta a mi negra más querida caminando por la sierra, alas del cóndor quisiera, soñando a ti morenita, estrellita de mi alma, ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo.
Moi, j'ai eu le petit frisson. Hein.
On est très content, en tout cas, de pouvoir rejouer voilà, devant un vrai public. Ouais. Ça nous fait plaisir. Et là, on...
là, il y a toute la ville, tous les gens qui sont attablés à l'étable du Comtat, qui vous ont écouté, applaudi. C'est chouette, ça, monsieur le maire.
C'est très, très chouette. J'avais une question à vous poser qui n'aura peut-être rien à voir avec tout ça. À partir de combien d'habitants nous sommes plus un village ?
Ouais, mais moi, j'en sais rien.
Et moi non plus. C'est
pour moi,
ça.
Tout est village.
Vous savez qu'il y a des gens qui sont installés à Carpentras, qui arrivaient de la région parisienne, qui ont dit ce qui est bien à Carpentras, c'est que c'est un village où il y a tout. Et je pense que c'est ça, et c'est seulement ça. Un village où il y a tout.
Carpentrasienne, Carpentrasien, merci à tous et à très bientôt dans cette ville géniale.
Effectivement, bah, c'est
oui,
génial.
C'est génial. Alors on va faire le générique avec vous. Cette émission a été réalisée par...
Juliette Medevielle.
Elle a été très très bien préparée par...
Marion Philippe.
On a été très très bien reçus par vous.
David Oran, l'étable du Comtat.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouverez Antoine Lee à Blain, en Loire-Atlantique.